RFI. Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirindzian, Antoine Grenier.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour passer en revue l'actualité sportive sur et en dehors des terrains. Actualité essentiellement football ce soir, la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions en Afrique. Ça démarre bien pour le tout-puissant Mazembe, un peu moins pour l'AS Togo Port de Lomé. Tous les résultats dans un instant. Marseille sur son petit nuage depuis la nuit magique de la qualification pour la finale de la Ligue Europa. Nous irons voir dans quel état d'esprit se trouve la ville à l'idée d'affronter l'Atlético de Madrid dans 10 jours à Lyon. Le football côté obscur avec la violence contre les arbitres en Éthiopie. L'agression de l'un d'entre eux lors d'un match de championnat a fini par entraîner la suspension de la compétition et la grève du sifflet. Reportage de Vincent Dublange à Addis Abeba. La NBA, c'est fini pour Bismack Biyombo cette saison, mais il aimerait bien maintenant rejoindre la sélection de RDC cet été pour défendre les chances du pays dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2019. Entretien du basketteur des Magic d'Orlando avec Olivier Pron. Enfin, nous reviendrons sur la bouleversante histoire de Zenash Gezmou, cette marathonienne éthiopienne morte en novembre 2017 dans la région parisienne sous les coups d'un homme, une athlète amateur qui s'était fait connaître en remportant plusieurs fois le marathon de Sénart. Un hommage lui a été rendu lors de l'édition 2018 disputée cette semaine. Ils ne sont désormais plus que 16 à briguer le trophée de la Ligue des Champions 2018. La 22e édition est donc entrée dans sa phase de poule jusqu'au 28 août avec une nouvelle répartition des matchs pour chaque journée, le vendredi, le samedi et le mardi. La CAF souhaitant mieux exposer ses rencontres pour les télés, notamment. Antoine Grandier, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
On va passer en revue les résultats. Et d'abord, cette première contrariée pour l'AS Togo Port de Lomé.
La formation togolaise qui disputait son premier match de phase de groupe de Ligue des Champions. C'était devant son public, mais c'était surtout face à une formation bien plus expérimentée, le Oroya de Conakry, présent en C1 ces trois dernières saisons. Expérience qui a parlé d'entrée avec une ouverture du score très rapide dès la 9e minute pour lancer le Oroya vers un succès 2-1. Et Victor Svinka, l'entraîneur des Guinéens, était content que son équipe ait abordé sérieusement la rencontre. Et pour le même prix, vous avez eu Ayivi Ekwevi, l'entraîneur de l'AS Togo Port de Lomé, qui était tout de même content de ses troupes malgré la défaite. Victor Svinka, quant à lui, l'entraîneur du Oroya, considérait qu'il fallait remporter ce premier match et que la motivation face notamment au Wydad Casablanca viendrait toute seule. Du coup, le Oroya prend la tête du groupe C, pendant que les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca, tenant du titre, se sont neutralisé un partout. C'était ce soir et c'était sous les yeux de Noé Ochebaudin. Noé Ochebaudin.
Qu'on trouvera un tout petit peu plus tard, manifestement. Alors, on va peut-être auparavant, on va passer au tout puissant Mazembe qui, lui, s'est imposé.
Un large succès cet après-midi. 4-1 sur les Algériens de l'Entente Sétif. Ben Malango s'est offert un doublé. Meshak Elia et Nathan Sinkala corsant l'addition du côté des Corbeaux. Un succès qui les met en tout cas sur la bonne voie d'entrée dans cette Ligue des Champions. Et Pamphile Miayo, j'espère qu'on va pouvoir l'entendre, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe. Pamphile Miayo a pris du plaisir.
On a marqué 2 buts en première période. Et au retour de la 2e période, il fallait pousser pour marquer encore, voire même 1 but pour la sécurité. Et on a marqué les 2. Donc félicitations. Vraiment, tous les joueurs, ils ont été à la hauteur d'eux-mêmes aujourd'hui. L'équipe de Mazembe a joué sur le collectif et aussi par rapport à ce qu'on a eu à travailler tactiquement. Donc, en fin de compte, ils ont ramené la victoire à la grande famille.
Et en face, Reda Hassimi, l'entraîneur de l'Entente Sétif, regrettait la naïveté de son équipe sur les actions défensives.
À 2-1, on avait la possibilité, on rentre en deuxième mi-temps. Les premières 25 minutes, je pense qu'on a procuré du jeu, on a essayé d'aller de l'avant. Donc quand tu essaies d'aller de l'avant, ben, indirectement, tu te découvres. Et le TP ne pardonne pas, certains joueurs ne pardonnent pas derrière, le ballon derrière, le dos de nos joueurs, de nos défenseurs. Le troisième penalty, donc aussi, ça a été un petit peu embarrassant pour nous. L'erreur, c'était on a laissé jouer. Quand tu laisses le TP, la qualité de la passe derrière le dos de nos défenseurs, on était en retard là-dessus. Donc tu payes cash. Automatiquement, ben, tu es en retard, il y aura pénalty. Donc par rapport à ça, je pense qu'on a défailli dans ces secteurs-là. Mais sinon, dans le jeu, on était là, on était présent. Ça nous manquait, je pense, que plus de croire devant qu'on pouvait aller chercher quelques buts encore.
Reda Hassimi, l'entraîneur de l'Entente Sétif, au micro de Pascal Mwangala. Mazembe en tête du groupe B devant Difa El Jadidi et le Mouloudia d'Alger qui se sont neutralisés hier. Enfin, dans le groupe D, 21 ans après, les Angolais du Primeiro de Agosto reviennent en phase de groupe de Ligue des Champions sur un nul, un partout contre l'Étoile du Sahel. Parité parfaite dans ce groupe puisque les Zambiens de Zesco United et les Mbabane Swallows se sont séparés eux aussi sur un nul, un partout. La dernière rencontre donc de cette soirée, elle opposait dans le groupe C les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca, sacré l'an passé. Score final, un partout et le résumé est signé Noé Ochebona.
Premier match de la phase de poule entre deux favoris de la compétition et pourtant pas de round d'observation. Après 2 minutes de jeu, les Sud-Africains ouvrent la marque, profitant d'une erreur de Bader Gadarin qui pousse le ballon dans ses propres filets. Le match est ouvert, l'affiche tient ses promesses. Après de multiples situations dangereuses des deux côtés, Ismaël El Haddad égalise à la 20e minute d'une tête piquée, alors qu'il est complètement oublié par la défense sud-africaine. Les Sundowns, emmenés par l'omniprésent milieu uruguayen Gaston Cirino, auront mis la main sur la rencontre avec un style de jeu bien à eux, du jeu direct vers le duo d'attaquants Biliat Vilakazi qui a souvent pris de vitesse la défense marocaine. Mais les deux équipes manquent de réalisme dans une seconde période intense et même tendue. Les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises, notamment sur des mains qui n'auraient pas été sifflées par l'arbitre dans la surface de réparation du WAC. Noé Ochebodin, Pretoria, RFI.
Et demain, place à la première journée de phase de groupe, mais cette fois en Coupe de la Confédération.
Et comme à chaque fois, tous les résultats de la Ligue des Champions et demain de la Coupe de la Confédération seront à retrouver sur africfoot.rfi.fr grâce à David Kalfa du service multimédia qui est à l'œuvre ce week-end. Pas la peine de chercher ce qui alimentera encore toutes les conversations dans les 10 prochains jours sur les terrasses de la Canebière, du Vieux-Port et dans tout Marseille d'ailleurs. Cette nouvelle rencontre avec son histoire que l'OM s'apprête à avoir le 16 mai en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid. Finale que vous pourrez vivre en intégralité sur RFI, en radio si vous êtes en Afrique et sur RFI.fr. 5e finale européenne du club, 14 ans après l'échec face à Valence, à Göteborg. Cette tentative de revanche sur le destin aura lieu cette fois plus près, à Lyon. Ça promet, vu les passes d'armes verbales de ces derniers jours entre Olympiens, président comme supporter. Ceux de l'OM, en tout cas, se mettent déjà à rêver d'un deuxième trophée continental et l'ont fait savoir dès le retour des joueurs d'Autriche, comme a pu le constater notre correspondant Stéphane Burgat.
Un enthousiasme à toute épreuve, 200 supporters survoltés pour accueillir les joueurs à la descente de l'avion et leur communiquer leur optimisme.
Espérons qu'on fasse l'exploit. Sur un match, tout est possible. Si une finale sur un match, tout est possible. Ben, on joue sans pression. On a ce qu'on voulait. On voulait jouer une finale de Coupe d'Europe chez soi. C'est jamais arrivé. Donc ben, pourquoi pas faire un doublé. Et comme a dit Adil Rami, jamais les premiers.
5e finale de Coupe d'Europe pour l'OM. Les supporters sont prêts à casser la tirelire pour monter à Lyon, assister à ce match. Car jouer ce dernier acte sur la pelouse d'un des grands rivaux du club et de son président Jean-Michel Aulas, cible d'un chant devenu viral sur les réseaux sociaux, eh bien pour les Marseillais, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau.
Pour un certain Aulas, comme ça on vient et on la gagne chez toi. Je ne vais pas la chanter, j'en ai marre de l'entendre. Cassé, mais c'est cassé en bien. Il croit que c'est cassé en mal, qu'il ne croit pas ça. C'est on vient et on gagne chez toi et tu vas voir c'est quoi un peuple quand il vient chez toi. Bleu et blanc, tu vas comprendre.
Changement d'ambiance, changement de ton du côté de l'OM, une communication type lucidité et concentration pour le défenseur Jordan Amavi à moins de 2 semaines de ce choc face à l'Atlético de Madrid.
C'est ça, c'est Marseille, c'est comme ça, mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut garder les pieds sur terre et prendre match après match. Ça reste du foot, on a les capacités pour, mais c'est vrai que ça va être un match très intéressant contre une très bonne équipe qui connaît bien la Coupe d'Europe, donc ça va être compliqué, mais bon, on va travailler pour bien progresser ce match.
Une communication prudente, car en championnat, l'OM est à 1 point du podium et d'une qualification pour la Ligue des Champions. Interdiction de laisser filer le match de demain contre Nice, et l'entraîneur Rudy Garcia sait garder la pression sur ses joueurs.
S'ils ne sont pas prêts pour le championnat, ils n'auront pas la finale, voilà, par exemple.
C'est bien ça,
je vais m'en servir, je vais faire ça tout à l'heure, je vais leur dire ça. Qui n'est pas prêt pour dimanche ne jouera pas le 16 mai, parce que le 16 mai c'est loin, on s'en fout, il y a 2 matchs de championnat avant. Non, mais ils savent très bien ce que je pense de la situation, effectivement, il faut balayer maintenant jeudi, on n'y pense plus. Et surtout, il faudra absolument que notre public soit derrière l'équipe, quand ce sera dur, qu'il les pousse.
L'objectif de cette saison reste la qualification pour la Ligue des Champions. L'OM a le luxe de pouvoir y accéder de 2 manières différentes, en championnat ou alors en remportant la Ligue Europa. Mais les Olympiens le savent, ils peuvent encore tout perdre sur tapis vert. Stéphane Burgat, Marseille, RFI.
D'où l'intérêt de ne pas se louper donc face à Nice demain au Vélodrome à 19h05, temps universel, en clôture de cette 36e journée de Ligue 1, presque entièrement programmée ce dimanche et non pas aujourd'hui, en mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani le 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune lors d'une demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l'OM, souvenez-vous, avait fait 18 morts et fait plus de 2300 blessés. Alors que pense l'Atlético, lui, de cet OM, lui, le double vainqueur de la Ligue Europa en 2010 et 2012, triple finale liste de la Ligue des Champions, les 2 dernières fois en 2014 et 2016, eh bien que du bien, évidemment. Et le fait pour les Marseillais de la jouer presque chez eux ne change pas grand-chose, rappelle le milieu de terrain des Colchoneros, Coque.
Une finale, c'est une finale. Il faut la jouer et la gagner. Peu importe où on la joue, en France ou en Chine ou je ne sais où, il faut la jouer et remporter le trophée sans penser que ça se passe en France, dans leur pays ou quelque chose comme ça. Marseille est une grande équipe qui a de grands joueurs et de grandes individualités et nous devons faire les choses bien si nous voulons retirer quelque chose de ça. Ces dernières années, nous sommes arrivés à ce stade de la compétition sans pouvoir l'emporter. Alors bon, là, nous devons la gagner.
Avec Pierre Chapon, l'Atlético qui recevra l'Espagnol Barcelone demain, avant que le FC Barcelone champion accueille un nouveau et toujours très attendu Classico avec le Real Madrid, même si là il n'y aura pas d'incidence pour le titre. Ailleurs en Europe, il n'y a plus qu'en Italie que le titre en championnat n'est pas joué, et ce soir le leader, la Juventus Turin, a remis un coup de pression sur son dernier rival, Naples, en s'imposant à domicile 3-1 sur Bologne en ouverture de la 36e journée de Serie A et compte provisoirement 7 points d'avance sur les Napolitains qui joueront demain après-midi contre le Torino. En Angleterre, l'information de la journée est d'abord extrasportive. Alex Ferguson a été hospitalisé d'urgence pour une opération du cerveau à la suite d'une hémorragie cérébrale. L'intervention de l'ancien manager de Manchester United, âgé de 76 ans et qui a dirigé les Red Devils pendant plus de 26 ans, s'est bien passé, a indiqué le club, mais il reste en soins intensifs. Concernant la Première Ligue, cette fois, Stoke City descendra d'un étage la saison prochaine. Le club est mathématiquement relégué en deuxième division après sa défaite à domicile 2-1 face à Crystal Palace. On retourne en Afrique, Antoine, en Éthiopie, une semaine sans football, au moins, décision prise par la fédération après l'agression d'un arbitre en plein match.
C'était lundi à Addis Abeba, lors d'une rencontre de championnat. Un membre de l'encadrement d'un des clubs de l'élite s'en est pris violemment à l'arbitre. S'il a ensuite été licencié et se retrouve poursuivi devant la commission de discipline de la fédération nationale, l'onde de choc a été telle dans un pays où la violence accompagne souvent les rencontres de football que tous les championnats ont été suspendus. À Addis Abeba, le reportage de Vincent Dublange.
Il y a un partout entre Defense, l'équipe de l'armée éthiopienne qui accueille au stade d'Addis Abeba, et le Walwalo Adigrat University FC, club du Nord. Sur cette vidéo publiée par la télévision officielle ETV, on voit l'arbitre reculer en courant, poursuivi par des joueurs de l'équipe visiteuse. Un membre de l'encadrement de cette équipe arrive sur le terrain. L'arbitre saisit le poteau de corner. Il est mis à terre et frappé au moins une fois par le poing du manager du club visiteur. L'arbitre n'est pas gravement blessé. Au contraire de son collègue, il y a quelques semaines, agressé dans le nord de l'Éthiopie avec l'un de ses assistants, encore une fois sur le terrain. par des supporters mécontents. Nous sommes dans les deux cas en première division éthiopienne, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, selon Omna Mugisha, journaliste sportif.
À Addis, il y a toutes les forces de sécurité, les télévisions, donc personne ne peut cacher s'il se passe quelque chose de moche. Mais en dehors d'Addis, seules les télévisions régionales sont présentes et même parfois les médias ne sont pas là pour couvrir les matchs. En dehors d'Addis, la violence est différente et très dure.
D'après le spécialiste, la fédération n'a pas nécessairement pris conscience de l'ampleur du problème. Dans un des grands hôtels d'Addis Abeba, elle a décidé de convoquer les 16 clubs de première ligue. Nous ne pouvons accepter ces comportements, dit le président de la fédération éthiopienne de football, Junaidi Bacha. La veille, les arbitres ont annoncé qu'ils se mettaient en grève pour 3 semaines. Ils ont listé 10 demandes, prise en charge des frais médicaux, d'assurance des victimes d'agressions, discussions aussi avec les forces de sécurité régionales.
Nous avons vu les 10 points qu'ils ont soulevés. Nous avons déjà répondu à certains, comme l'assurance, les frais médicaux et aussi la garantie pour les arbitres de pouvoir aller dans les clubs, de ville en ville, en paix. Et nous voulons discuter avec les polices des différentes régions pour améliorer la sécurité dans les 2-3 jours et ensuite ça repartira.
Le président espère donc une reprise d'ici la semaine prochaine. Les arbitres veulent aussi que l'auteur de l'agression soit poursuivi devant la justice. Le président Junaidi ne ferme pas la porte mais veut d'abord que la commission de discipline se penche sur son cas. Mais il n'y a pas que le sportif, reconnaît-il. La politique a aussi fait son entrée sur les terrains ces dernières années, confirme le journaliste Omna Mugisha.
Les 2-3
dernières saisons, nous avons vu les violences ethniques arrivaient fréquemment sur les terrains de football. Cela a commencé avec les protestations anti-gouvernementales en 2015. Certaines figures de l'opposition, je veux dire des fans de foot, que le gouvernement réduisait au silence hors des stades, ont commencé à crier des slogans, faire des choses pour dénoncer la manière dont le gouvernement dirigeait le pays.
La nomination d'un nouveau Premier ministre début avril pourrait changer les choses. Vincent Dublange, Addis Abeba, RFI.
Du basket à présent, la République démocratique du Congo, mais pas à n'importe quel prix. Bismack Biyombo, le pivot du Magic d'Orlando NBA, s'est à nouveau rapproché de son pays naissance, dont il veut défendre les couleurs, Antoine, mais il a aussi fixé ses conditions.
L'été dernier, déjà, Biyombo avait tenté une approche pour jouer pour la RDC, c'est ce qu'il souhaite. Les discussions avaient alors tourné court pour des raisons de primes d'assurance trop élevées. Cette année, il revient à la charge. Biyombo veut aider la RDC en lice pour le mondial en Chine, mais bien mal embarqué avec 3 défaites lors de ses 3 premiers matchs d'éliminatoire. Bismack Biyombo au micro d'Olivier Pron.
C'est vrai que c'est l'actualité, mais c'est juste que moi j'aimerais bien jouer avec l'équipe nationale, mais on est en train encore de discuter avec notre gouvernement et la fédération pour voir comment on peut arriver à faire quelque chose, comment ils sont en train de faire l'organisation et tout ça, parce qu'il y a aussi un peu des obligations avec d'autres joueurs et moi-même pour voir si on peut arriver à faire quelque chose avec notre équipe nationale. On a suffisamment de talent et pour nous c'était le moment idéal d'élever le basketball congolais au niveau national et international, et on espère bien ramener presque tout le basketteur qui évolue à l'extérieur du pays et voir ceux-là qui sont au pays, qui est-ce qui peut nous aider et faire quelque chose de bien, parce que ils ont déjà commencé à faire de bons pas et je crois que nous on ne fera qu'ajouter au travail qu'ils ont déjà fait.
Qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas marcher? A priori c'est en bonne voie.
Ouais, en fait, premièrement, c'est que je peux rien garantir parce qu'après le gouvernement prendra ses décisions. Donc moi, je peux pas contrôler les décisions du gouvernement. C'est juste que de notre côté, on a des demandes à faire au gouvernement. Si jamais le gouvernement nous donnait le OK de notre côté, donc on commencera à travailler dessus. On a déjà commencé à travailler dessus, parler un peu avec des joueurs pour voir qui pourra venir, qui pourra jouer avec moi. Mais tout le monde attend, on attend, on espère bien que la réponse soit bientôt et afin que je puisse avoir la chance de jouer avec notre équipe nationale, parce que ça fait longtemps que je veux jouer. Et là, j'ai un peu plus de temps pour cet été pour jouer. C'est pas au même moment avec notre pré-saison ou autre chose, donc. On verra. Moi, je suis trop excité de l'opportunité. On espère bien avoir un accord avec notre gouvernement et la fédération afin d'accomplir ses rêves.
Ça dépend de quoi? C'est quoi les demandes?
En fait, premièrement, ce sont des moyens financiers parce qu'on doit au moins faire de la préparation dans un endroit qui est idéal. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit loger l'équipe dans de bonnes conditions. Les joueurs doivent manger chaque fois. Je ne veux pas aller puis après avoir des problèmes qu'on a chaque fois avec nos équipes nationales. Donc ça, c'était le plus important. Et puis après, avec les histoires d'argent qu'il faut payer aux joueurs, moi, ça m'intéresse moins parce que l'argent que le gouvernement va me donner ne changera pas ma vie. Moi, je veux le faire pour l'amour, mais c'est surtout pour les autres joueurs, pour voir comment on peut aider tout le monde à passer de bonnes préparations et surtout être prêt pour jouer, parce que je veux jouer pour gagner, c'est ça le plus important. Parce que s'il faut aller jouer juste pour jouer, alors on perd de temps. Donc pour moi, c'est jouer pour gagner et voir quels sont le meilleur joueur qu'on peut ramener avec nous, qui pourra nous aider à gagner. Donc c'est un peu ça en général. Moi, je crois que la balle jusque-là est du côté de notre gouvernement et la fédération. On espère bien que tout se solutionne et qu'on a la chance d'aller entraîner dans de bonnes conditions, passer des bons moments avec les autres et faire quelque chose de spécial pour notre pays que nous tous on chante, qu'on aime bien.
C'est un bel objectif, ces championnats du monde en Chine en septembre 2019. C'est plutôt mal parti pour les Congolais qui ont perdu leurs trois premiers matchs. Et là, il va falloir en juin aller en Égypte, défier l'Égypte, le Maroc et également l'Angola.
C'est pas impossible. C'est de même que le play-off, c'est pas impossible. On s'engage, on se concentre. En chaque match compte, on reste concentré et on reste patient. Donc oui, c'est possible. Mais et puis après, il y a rien qui est impossible. J'ai tout vu. Nous, on doit juste être bien préparé. Et c'est pour ça que je suis en train un peu d'insister plus sur la préparation, parce que la préparation a tout à faire avec la compétition. Quand on est bien préparé, on a plus de confiance en soi et c'est facile de jouer à un haut niveau. Et jusque-là, on ne peut pas aller entraîner au pays parce que déjà on n'a pas de bonnes infrastructures. Et même si on allait entraîner au pays, ce n'est pas les mêmes infrastructures qu'on aura à jouer. Donc il faut se préparer en conséquence de la compétition. Donc c'est un peu ça en général. Et je crois qu'on a une très bonne chance. On a une très bonne chance. Je suis trop confiant et voyons voir ce qui va se passer.
De votre côté, vous êtes à peu près frais. La saison a été plus courte que prévu avec les Orlando Magic. Néanmoins, tout va bien en NBA pour vous ?
Ouais, tout va très bien. Tout va très bien. Dieu merci, je suis en bonne santé. J'ai fini la saison en bonne santé. Je reprends mes entraînements dans deux jours. Donc, tout va bien de ce côté. Et puis, on a l'été qui est juste là pour me préparer et être bien prêt pour la saison prochaine. Parce que, en tant que joueur, il faut jouer pour gagner. Donc on se prépare pour voir comment on peut aider nos jeunes à comprendre qu'est-ce qui est gagné, comment il faut gagner, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont moins de l'expérience. Et ça, ce sont nos objectifs pour cet été.
Bismack Biyombo, le pivot du Magic d'Orlando, qui jouera donc pour gagner, pas comme cette année, hein, puisque le Magic a été éliminé avec une triste 14e place de la conférence S de la phase régulière.
Chaque 1er mai depuis 18 ans, dans le sud de Paris, dans la commune de Sénart, se court un marathon. Mais cette année, Antoine, il y avait une absente. Zenash Guesmou, marathonienne de 27 ans, elle avait remporté l'épreuve à 3 reprises.
Et elle est disparue en novembre dernier, tuée dans son petit appartement de Seine-Saint-Denis sous les coups d'un Érythréen de 28 ans. Aujourd'hui, dans l'attente de son jugement, son décès a ému le monde de l'athlétisme et mis en lumière le parcours de la jeune femme, celui d'une réfugiée politique arrivée en France en 2011 et qui réussissait d'excellents chronos, le tout avec un statut amateur et son travail de femme de ménage. Malgré ça, elle s'entraînait 2 fois par jour, un statut précaire qui la poussait à s'aligner sur des petites courses pour compléter sa maigre paye avec les primes de podium, comme à Sénart, par exemple, où personne n'a oublié l'Éthiopienne Zenash Guesmou. Le reportage de Martin Guez.
L'image était presque devenue commune au fil des années, celle d'une petite Éthiopienne, 1m50 pour 38 kg, sourire aux lèvres après 42 km d'effort, les mains levées vers le ciel en signe de victoire. 3 années de suite, Zenash Guesmou a franchi le gros ruban vert marquant l'arrivée du marathon de Sénart en première sous les confettis et les applaudissements. Des applaudissements encore nourris en ce 1er mai, moment de rendre hommage à l'athlète avant le départ de la course.
Un hommage à Zenash Guesmou,
Sa disparition a forcément marqué les esprits, notamment celui de Guy Geoffroy, maire de Comblaville, commune de la banlieue sud de Paris, où arrive le marathon qu'il a créé il y a maintenant 18 ans. Et il a bien connu Zenaj Guezmou sur les podiums, où il avait l'habitude de lui remettre ses médailles, mais aussi sur le bitume pour avoir couru l'épreuve 14 fois.
Zenaj était une belle personne, c'était une femme de très grande qualité parce que très discrète, mais en même temps très attachée aux vraies valeurs et qui faisait vraiment honneur à notre marathon de Sénat. Bien sûr que c'était important de lui rendre hommage. Un petit bout de femme qui ne faisait pas de bruit, mais qui donnait beaucoup.
Flore Martinuzzi, elle, était la principale adversaire de l'Éthiopienne sur l'épreuve. Lors des 3 victoires de Zenaj Guezmou, la policière de profession a terminé à la 2e place, parfois avec plus d'un quart d'heure d'écart. Une rivalité qui restait très amicale, toujours dans la bonne humeur, ce que n'a pas oublié Flore Martinuzzi.
C'était une personne souriante qui était toujours sympa, enfin, qui discutait bien. Elle était impressionnante et je la voyais qu'au départ. Elle était forte et qui inspirait le respect, forcément. Puis elle était tout le temps en progression constante. Tous les ans, elle améliorait son record. Avant les courses, elle était toujours souriante, toujours disponible. Elle était sympa. C'est vrai que c'est... Ouais, elle manque. Elle manque au marathon.
Car Zenaj Guezmou, c'était du top niveau. 2h32 minutes comme chrono de référence sur marathon, réalisé à Amsterdam en 2016. Aujourd'hui, personne ne fait mieux parmi les coureurs français. Et l'Éthiopienne était loin du confort d'un statut professionnel. Elle s'entraînait au moins 2 fois par jour, très tôt le matin et tard le soir, avec entre les deux une journée de travail complète comme femme de ménage dans un hôtel. Son histoire a touché tout le monde de l'athlétisme, même les plus grands champions. Bob Tari, spécialiste français du demi-fond, médaillé mondial sur 3000 mètres steeple, s'alignait dans les épreuves masculines. Et l'ancien champion, bientôt 40 ans, rappelle que comme Zenaj, beaucoup d'athlètes sont confrontés à la précarité.
Ce qu'elle vivait dans son quotidien, c'est 90% des gens qui font du haut niveau. Hein. Il n'y a que 10% des gens de haut niveau qui font que ça. À côté, c'est un sport qui est très très dur, hein, surtout pour exister au niveau européen, au niveau mondial. Surtout pour elle, hein, qui est éthiopienne. Elle avait réussi à faire des perfs de très haut niveau en travaillant à côté. C'était tout à fait remarquable. Hein. Indépendamment de ça, elle gagnait beaucoup de courses dans le coin. C'était quelqu'un de bien, qui avait une joie de vivre. C'est dramatique et ça n'a pas lieu d'être dans le monde du sport de près ou de loin.
Arrivé en France en 2011 pour courir le marathon de La Rochelle, Zenaj Guezmou demande et obtient le statut de réfugié politique. Elle passe alors par des foyers de jeunes, le local d'un centre équestre et emménage finalement dans un logement social de Neuilly-sur-Marne. C'est dans cette ville de Seine-Saint-Denis qu'elle s'entraîne et son club l'a beaucoup aidée. Elle décide finalement de suivre une amie athlète au Stade français où elle rencontre Frédéric Belouze, son nouvel entraîneur, qui se souvient d'une sportive bourreau de travail.
Moi je connais pas d'athlète qui accepterait de s'entraîner en menant la vie qu'elle menait. C'est-à-dire de s'entraîner 10 à 15 fois par semaine, sans aide, parce qu'elle n'avait aucun sponsor, rien. Ses seules aides, c'était ses primes d'arrivée lorsqu'elle gagnait des courses ou qu'elle finissait sur un podium. Et après, elle devait faire sa journée de travail. Et ce n'était pas un travail de bureau, en plus c'est un travail très fatigant, avec des horaires décalés, tout dans une situation très difficile.
Une amélioration de sa situation passée par l'obtention de la nationalité française. Au vu de ses performances, elle aurait pu bénéficier d'un encadrement médical, d'un kiné, d'un diététicien. Une demande une première fois refusée pour une maîtrise de la langue encore perfectible. Mais Zenaj Guezmou ne se décourageait pas. Frédéric Belouze se rappelle de l'athlète révisant d'arrache-pied avant les compétitions et qui ne perdait pas de vue ses objectifs.
Elle voulait être parmi les meilleures marathoniennes du monde. Donc l'idée, c'était elle, une fois qu'elle obtenait la nationalité française, pouvoir intégrer l'équipe de France et pouvoir faire de l'athlétisme son métier, devenir pro, entre guillemets, ou semi-pro, pour gagner décemment sa vie, avec en plus une activité qu'elle aime. Plus qu'un sport, c'était une voie de survie, c'était sa voie de survie, c'était le moyen qu'elle avait de survivre et de s'en sortir ici.
Frédéric Belouze, qui s'est rendu avec le Stade français à Sulhulta, temple des coureurs de fond en Éthiopie, pour y rencontrer la famille de l'athlète et leur remettre une cagnotte de près de 5000 euros, ainsi que des affaires de sport. Une famille qui attend désormais que justice soit faite. Un avocat, membre du même club d'athlétisme que Zenaj Guezmou, s'est lui proposé de la défendre bénévolement, car même après sa mort, son souvenir reste fort.
Un reportage de Martin Guèze. Une dernière info en bref avant de se séparer. La victoire de l'Italien Elie Viviani lors de la 2e étape du Tour d'Italie, parti bien loin de la péninsule puisqu'il s'était lancé d'Israël. On en reparlera d'ailleurs plus en détail demain. Le coureur de la Quick-Step s'est imposé au sprint à Tel Aviv, terme d'un parcours de 167 km lancé à Haïfa. L'Australien Rohan Dennis s'est emparé du maillot rose de leader. Demain, 3e étape dans l'État hébreu avant le transfert vers l'Italie de 129 km entre Beersheba et Eilat. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci à Christophe Loisel pour la réalisation. La suite demain à 21h30, temps universel, et dans un instant, 24h en France avec Romain Ouzoui. Bonne fin.